I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Imaginez, vous rentrez du travail, vous posez vos affaires, vous vous installez confortablement dans votre canapé. Dans votre salon, pas de télévision, il y a bien une manette, mais pas de console. Il y a un bureau aussi, mais pas d'ordinateur, et vous n'avez pas non plus de smartphone depuis un certain temps déjà. Et là, posé sur une table, des lunettes. Vous les mettez, et progressivement, une fenêtre apparaît à la place où trônait votre télévision, deux autres sur votre bureau. L'ami que vous deviez appeler apparaît là, dans votre salon, sur le canapé, aussi vrai que nature. Bienvenue dans le Métavers, vous écoutez Futur au pluriel, un podcast de Siècle Digital. Et pour parler du ou des métavers, nous sommes avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à Siècle Digital. Bonjour Valentin.
Salut Grégoire.
Il sera accompagné par Mathieu Fleck, directeur général au sein du cabinet CISC, et par Anthony Macquart, directeur du digital et de l'expérience utilisateur chez Bandai Namco Europe. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, le métavers, vous avez tous dû en entendre parler ces derniers jours, surtout parce que l'actualité tourne plus ou moins autour de ça. Mais c'est quoi exactement et à quoi ça va servir ? Alors, dans l'actualité, il y a notamment Facebook. Hein. Facebook qui a officialisé son changement de nom, qui se nomme désormais Meta, en référence justement au métavers que Mark Zuckerberg considère comme le remplaçant de l'Internet mobile actuel. Il s'agirait pour lui notamment d'un monde virtuel où tout ce que nous faisons dans le monde réel serait potentiellement faisable. Il y a aussi Microsoft qui s'est lancé dans la course avec Mesh, destiné au travail collaboratif à distance. Tout ça, on en a déjà un peu parlé dans les podcasts culture numérique de Siècle Digital. Mais il est aussi bon de rappeler que ces entreprises ne sont pas les premières à s'être penchées sur ce sujet du métavers. Il y a peut-être que certains d'entre vous, si vous avez été gamer ou si vous l'êtes encore, connaissent Roblox, qui n'est pas le premier d'ailleurs, il y a eu Second Life avant, qui sont des jeux qui proposent justement des univers qui font penser un peu à ce que pourrait être le métavers, des univers virtuels où on se balade dedans avec des avatars qui nous représentent, où on peut même commercer, échanger, se faire de l'argent virtuel qui peut ensuite être transféré et transformé en monnaie réelle. Mais alors avec tout ça, au fond, c'est quoi un métavers exactement ? Et Valentin, est-ce que tu peux éclairer un peu notre lanterne ?
Oui, alors ça va être assez simple puisque je vais pouvoir résumer tout ce que tu as dit un petit peu avant. En fait, un métavers, ma définition, parce que je pense qu'il y a autant de définitions que de vision et de définition du métavers possible, c'est que c'est un univers virtuel accessible soit en réalité du coup virtuel, soit en réalité mixte, dans lequel on se rend avec un avatar pour se connecter avec ses proches. Donc on va pouvoir jouer, on va pouvoir vivre des expériences, que nous a montré Facebook avec, en allant dans un concert, ce qui me semble technologiquement assez difficile, mais bon, on se projette peut-être dans pas mal d'années, voire une bonne décennie, et on va aussi pouvoir y travailler. Voilà ma définition, un peu sobre du métavers. Je pense qu'on en a tous une. Mathieu, est-ce que tu as une définition propre ? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou est-ce qu'on peut s'éloigner un petit peu de cet environnement-là ?
Alors le terme métaverse, déjà c'est intéressant de se dire qu'il n'est pas récent mais pas non plus si vieux. En fait, le terme métaverse vient d'un livre qui s'appelle Snow Crash, le samouraï virtuel en français, qui avait été créé par quelqu'un qui s'appelle Neil Stephenson et qu'il a écrit en 1992. Donc en 2022, il va fêter ses 30 ans. Donc déjà, pour se dire un peu l'historique de ce qu'est le terme métaverse. Et tout à l'heure, on parlait de Second Life. On peut aussi se rappeler, pour les plus vieux, qu'en 1997, il y avait Canal+, qui avait fait une sorte d'univers virtuel qui s'appelait le Deuxième Monde. À l'époque, il fallait lancer un CD-ROM pour pouvoir rentrer dedans. Mais c'était déjà des premières bases. Et si on parle juste de ce qu'est le métaverse aujourd'hui ou le métavers en français, déjà c'est la contraction de deux choses, le méta-univers ou méta-univers. Et aujourd'hui, ça, c'est un peu un mot valise, je dirais, sur cette année 2021, où certaines personnes vont y voir la possibilité d'avoir un équivalent de la vie virtuelle dans un univers virtuel. D'autres vont y voir le mix entre de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. D'autres y vont y voir du jeu vidéo immersif comme du Fortnite. Donc il y a beaucoup de choses qui sont incluses dedans. Ce qui est sûr, c'est que tout ça va dans le même sens, qui est la fusion du réel et du virtuel, chose à laquelle je crois depuis moi pas mal de temps. et qu'on a déjà commencé à voir rien que dans notre rapport au smartphone, par exemple, aujourd'hui.
Anthony, une définition peut-être personnelle du métavers ?
Je pense que ce qui vient d'être dit est assez pertinent. Je rajouterais simplement qu'il y a la notion de monde persistant ou d'univers persistant, en plus qui est important, et d'avatar, qui sont deux éléments bien connus dans l'univers du jeu vidéo, mais qui permettent de se représenter dans cet univers. Et effectivement, dans l'univers des jeux vidéo, il y a eu des initiatives, effectivement, il y a celle de Canal+, avec le développeur français Cryo en 97, mais en faisant un peu de recherche sur le sujet, il s'avère que LucasArts, qui s'appelait pas LucasArts à l'époque, avait créé un jeu en 85 qui s'appelait Habitat, et qui était un des premiers jeux de rôle massivement multijoueur avec une communauté virtuelle, avec un environnement graphique digital. Donc ça remonte ces métavers, en tout cas ces univers persistants multijoueurs à très longtemps, en termes de conception intellectuelle, mais aussi de développement.
Justement, on a un petit peu, vous avez déjà un peu abordé le côté aussi jeux vidéo et conception, mais en termes de technologie déjà, est-ce que c'est faisable de faire un métavers ? Facebook a présenté une vision très idyllique de ce que ça pourrait être. Est-ce que c'est faisable de faire exactement ce que Facebook a montré ?
Alors, je pense que c'est faisable, mais est-ce que déjà c'est souhaitable ? Ça, c'est la première question. Après, si on fait la comparaison entre ce qu'est ce potentiel métavers et ce qu'on vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on peut se dire qu'aujourd'hui, on a un device, donc un smartphone par exemple, ou un ordinateur, qui permet de se connecter à différentes plateformes. Et les gens sont heureux comme ça, et c'est un seul device qui permet de se connecter, on va dire, à différents mondes virtuels dans lesquels on va évoluer, dans lesquels on a aussi parfois notre propre identité. Et je crois plus à ça pour le futur, en se disant, est-ce qu'on veut avoir une entreprise hégémonique comme Facebook qui impose sa vision et son écosystème à tout le monde ? Je pense que les autres géants du numérique et les futurs aussi qui vont émerger ne voudront pas forcément faire ça. Par contre, le fait que tout soit interconnectable via un device, on parlait en introduction de lunettes, par exemple, des lunettes de réalité augmentée, ça, j'y crois plus aisément. Après, il y a énormément de travail sur ce sujet. Il faut des dispositifs pour accéder à ce métavers, il faut du contenu, il faut un écosystème, il faut surtout que les gens s'y intéressent. Et donc, techniquement, c'est possible. Après, c'est pas que de la technique. Il y a plein de produits techniques qui ont été lancés, qui ont été parfois des échecs ou des demi-échecs. Et comment est-ce qu'on incite les gens, et aussi, par exemple, avec Microsoft, comment on incite les entreprises à participer à ce type d'événements virtuels ?
Alors, je mitigerais un petit peu ça. Faisable techniquement aujourd'hui, de la manière dont ça a été montré, très très difficilement ou très partiellement. Il faut beaucoup de technologies, il faut beaucoup de devices très performants, il faut beaucoup de capacités de calcul pour arriver à potentiellement faire fonctionner ce qui a été montré par Facebook. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Il y a beaucoup d'extrapolations. D'ailleurs, pendant la conférence de Facebook, ils prenaient énormément de précautions sur quand est-ce que ça pourrait arriver. On parle de 5, 10, potentiellement 15 ans. Je pense qu'effectivement, il y a une difficulté technique à couvrir sur la capacité de tout représenter en digital, de tout calculer en temps réel, et d'avoir ces interfaces aussi homme-machine, que ce soit en termes de vision, mais aussi en termes de mouvement, de représentation dans l'espace. Donc je pense que tout ça, ça lève des très bonnes pistes en termes de recherche, de développement, d'outils, de logiciels, d'intelligence artificielle, mais je pense qu'on n'y est pas du tout aujourd'hui, et qu'il y a énormément de développement à réaliser pour qu'on s'en rapproche, sauf des épiphénomènes ou des micro-expériences. Mais en tout cas, l'expérience globale présentée aujourd'hui, on en est très très loin.
Ouais, j'ai retrouvé un exemple, je me rappelle dans la vidéo de Facebook, quand j'avance un peu sur l'émission, mais il montrait plusieurs jeux dans lesquels qui étaient très immersifs. Et à un moment, il montre quelque chose qui m'a assez interloqué, parce qu'il y avait des choses qui me semblaient assez concrètes dans la vidéo, faisables avec un casque en réalité virtuelle, même si c'était bien marketé, bien présenté par Facebook. Mais il y avait surtout cette partie de basket où la personne, à un moment, elle tient un ballon. On la voit tenir un ballon et physiquement, elle le tient presque. Donc, sauf que il n'y a pas encore beaucoup de gants, pas encore beaucoup de techno qui permettent de le faire, qui sont suffisamment
je pense, fluide et efficace pour ressentir ces mêmes mouvements-là et faire une vraie partie de basket en étant chacun à des endroits différents. Enfin, c'est, voilà, ça c'était l'exemple qui m'a trouvé, qui m'a semblé un petit peu... un peu what the fuck, je pense, dans l'exemple, s'il faut être concret, parce que il y avait des choses qui étaient assez normales et plutôt logiques, mais ouais, l'exemple de basket, mais effectivement, ça nous renvoie à la problématique de device, et ça nous amène aussi à une autre question, c'est avec quoi on va aller dans le métaverse ? Est-ce qu'on sera plutôt sur un casque de réalité virtuelle ? Est-ce qu'on aura des lunettes ? Est-ce qu'on est prêt à mettre des lunettes aussi ? Plutôt qu'un casque, on sait que le casque est juste là pour nous emmener ailleurs, plutôt que des lunettes où on va vivre avec, on va se balader dans la rue avec, et on va être... assis dans le métro avec quelque chose qui va être projeté, que les autres ne vont pas pouvoir voir, mais que nous, on va pouvoir voir. Est-ce que ça va être des appareils qui vont appartenir à Facebook, il y a ces marques qui créent des métaverses, ou est-ce que ça va appartenir aussi à d'autres marques qui vont permettre à d'autres d'aller dans le métaverse, comme nos smartphones nous permettent d'aller sur Internet ? Mathieu, peut-être, est-ce que tu avais un avis là-dessus ?
Je pense qu'il existe déjà des choses. Moi, j'ai pu tester, par exemple, du retour haptique. Donc, le fait d'avoir effectivement des gants qui donnent l'impression d'avoir un certain poids. Donc, on pourrait imaginer ça. Alors, ce n'est pas, par exemple, intégré aujourd'hui dans les produits de Facebook, mais en tout cas, il y a déjà des gens qui le testent. J'avais testé aussi des choses sur le HTC Vive avec de l'eye tracking qui permettait aussi de faire bouger la scène en fonction de comment est-ce qu'on voulait se déplacer. J'avais testé aussi quelque chose où, à un moment donné, quelqu'un m'avait connecté une sorte de... En fait, qui prenait ma tension et mes battements cardiaques. Et en fait, l'expérience changeait en fonction de mes constantes vitales. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes qui se passent par rapport à ça. Après, pour revenir sur ce qu'est la vidéo de Facebook, en fait, cette vidéo de Facebook est comme pas mal de vidéos qui ont été lancées ces dernières années avec une promesse qui est surdimensionnée et qui va créer sûrement de la déception. J'ai un exemple, HoloLens, par exemple, je crois que la vidéo avait été lancée sur le HoloLens V1 vers 2015, et il y avait une vidéo de Microsoft qui présentait un environnement très B2C, on pouvait jouer à des jeux dans son salon, et il y a une interaction à 360 degrés à tout ça. Et dans les faits, quand on teste un HoloLens, en tout cas le HoloLens V1, on avait une petite fenêtre, pas forcément très bien faite, l'expérience utilisateur n'était pas dingue, plus le casque coûtait plus de 3 000 $, donc ce n'était pas vraiment pour le grand public. Donc il y a toujours un peu cette histoire qu'on se raconte aussi pour séduire, je dirais, l'esprit des gens, en se disant « voilà ce que ça va être et ça va être super ». Donc les gens s'excitent sur le sujet, mais en réalité... tant en termes de prix que d'expérience réelle, on est quand même en décalage. Et ça, je trouve que c'est contre-productif pour la plupart des boîtes qui produisent de la tech ou qui veulent produire ce type d'expérience, parce qu'on sait que de toute façon, effectivement, on n'y est pas. Hein, on parlait du sujet technique. Il y a plusieurs blocs qui existent, mais en fait, est-ce que c'est orienté vers une même direction qui est par exemple la création de ce métaverse aujourd'hui ? La réponse est non. Mais c'est aussi des entreprises en face comme Facebook qui peut investir énormément, qui va investir cette année 10 milliards sur les sujets ARVR, qui veut recruter 10 000 personnes, et c'est pas les seuls qui veulent faire ça. Donc il y a une armée quand même d'entreprises qui sont orientées vers ce type, en tout cas d'envie, de se dire c'est quoi l'internet d'après, entre guillemets, c'est quoi le numérique d'après. Je ne sais pas si vous connaissez la série Silicon Valley. Dans la série Silicon Valley, ils inventent une sorte de nouveau internet, et j'ai l'impression que les géants du numérique essaient aussi d'inventer ce nouveau internet pour le futur, et comment est-ce qu'il se passe dedans.
Moi, je pense qu'ils ont besoin de se renouveler. Facebook cherche des relais de croissance et à s'auto-cannibaliser pour proposer quelque chose de nouveau demain. Aujourd'hui, ils ont un réseau social qui font évoluer. Donc, il y a des évolutions, mais il n'y a pas de transformation fondamentale. Et je pense que ce qu'ils cherchent à faire à travers ça, c'est de proposer quelque chose de complètement différent et d'envisager le futur du réseau social avec notamment quelque chose de beaucoup plus immersif. Sortir des écrans, mais voilà, il y a toujours une partie de vision, d'affichage. Alors c'était sur des écrans, il peut y avoir beaucoup de typologies d'écran, que ce soit fixe, soit mobile. Maintenant on part sur la réalité virtuelle, mais ça reste une interface machine avec un écran et un moyen de communiquer avec les autres de manière plus immersive. Je pense que c'est ce qui est recherché ici, et je pense que Facebook a besoin de ça pour sortir un petit peu de son modèle existant avec tous les déboires qu'il subit. Je pense qu'ils ont besoin de donner un peu de vision de plus long terme et de se projeter sur quelque chose de nouveau.
On a abordé les devices et les questions aussi de la marque. Qui va faire les devices ? Qui va faire aussi le métavers ? Et à qui ça va appartenir tout ça ? Il y a aussi la question, ça pose intrinsèquement la question de l'open source aussi. Est-ce que c'est souhaitable que ce soit comme Internet? Si c'est vraiment le remplaçant de l'Internet mobile actuel, c'est censé être quelque chose de relativement libre, un espace de liberté. Est-ce que ce sera vraiment le cas si c'est le métavers de Facebook, par exemple?
Est-ce que l'Internet actuellement et la façon de se connecter à Internet est libre? La plupart des gens utilisent Chrome pour se connecter à Internet sur leur ordinateur. On a tous soit un Android, soit un iPhone. Les différents systèmes qui pouvaient exister autour ont disparu. Android, à la base, est open source, mais si on veut avoir les applications qui font qu'on pouvoir avoir accès à ces différents services, on a besoin de payer une licence à du Google et des choses comme ça. Donc, en réalité, Internet n'est pas vraiment libre aujourd'hui. Et surtout, plus ça va et moins on a une vision large d'Internet. Quand j'ai commencé Internet en 96, j'avais l'impression de découvrir beaucoup plus de choses, d'aller sur beaucoup plus de sites Internet qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais sur mes applications Twitter, TikTok, Instagram, Snapchat, peu importe. Et en réalité, on est sur un web qui est quand même déjà un peu fermé. Et le côté Far West qu'on avait, on va dire, il y a 20 ans, n'existe plus vraiment. Donc, juste les gens, en fait, je pense qu'au début, ça inquiète un peu les gens. Ils se disent, ok, mais est-ce que c'est pas trop fermé à tout ça? Et en fait, si derrière, le côté utile ou l'intérêt qu'ils peuvent y avoir est plus fort que, par exemple, donner leurs informations personnelles ou s'enfermer dans un écosystème, en fait, ils vont le faire. Et ça se voit partout. Quand, par exemple, sur les smartphones, on a commencé à lancer les GPS, les gens étaient très inquiets. Ils ont dit non, mais je n'ai pas un téléphone qui me suit tout le temps. Aujourd'hui, moi, par exemple, je ne fais pas 500 mètres sans sortir mon GPS. Et j'oublie ce côté, je donne mes données personnelles et entre guillemets, je suis dans un écosystème qui est Google, qui est Android et qui est entre guillemets quand même assez fermé. Donc, si l'intérêt est là et si il y a un apport dans la vie des gens ou en termes d'utilité, de facilité, les gens iront.
En revanche, je crois pas au côté universel du métaverse, simplement parce que techniquement, ça demanderait un standard global utilisé par toutes les sociétés. Et ça, je pense que c'est assez illusoire d'imaginer que ça sera le cas, que ce sera le cas un jour. En revanche, je crois à des multiples métaverses qui proposeront des expériences différentes. Les expériences devant être tellement abouties qu'elles ne pourront pas être standardisées. On ne pourra pas avoir le même fonctionnement d'un casque de réalité augmentée ou de réalité virtuelle et de contrôle d'une application si on veut naviguer sur le web ou si on veut jouer à un jeu vidéo, à une simulation ou se rendre à un concert avec ses amis ou échanger avec ses amis. Donc je crois à une multiplicité de métavers, mais un métavers unique, global, standardisé, aujourd'hui ça me semble pas réaliste.
J'aimerais bien juste rebondir sur le terme abouti parce que je pense qu'il est important. Si on regarde ce qui se passe sur la réalité virtuelle ou même sur certaines expériences de réalité augmentée, on est par exemple très loin de ce qui se fait dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo propose maintenant des expériences qui sont quasiment similaires à la vie réelle. Et ce que propose par exemple Facebook dans son métaverse et dans sa vidéo, c'est intéressant, mais moi je trouve ça... Enfin, j'ai publié un commentaire sur l'une de leurs vidéos YouTube en disant que c'était boring, donc que c'était un peu ennuyant. Parce que je trouve que c'est pas excitant. C'est pas un peu le futur qu'on m'a promis. Et puis même en termes de réalisation... Bah, on est habitué à tellement mieux maintenant dans plein de secteurs différents, donc dans l'entertainment, dans le jeu vidéo. Et si jamais on propose quelque chose qui est un peu décevant, parce que aussi peut-être les dispositifs, les casques, les lunettes et tout ça peuvent pas gérer en tout cas un meilleur rendu, ça aussi ça peut créer un frein chez des personnes qui sont habituées à des choses qui sont plus intéressantes.
Moi, ce qui me fait rire dans ce que je vois avec Facebook, en tout cas ce qui me fait sourire, c'est que c'est un peu une vision du futur qu'on avait déjà il y a 20 ans. C'est déjà des choses qui étaient proposées et projetées un petit peu de cette manière-là, avec des avatars 3D qui échangent. Je trouve pas que ça apporte grand-chose, je trouve pas que ce soit quelque chose de fondamentalement nouveau par rapport au futur qu'on envisageait dans les années 2000, dans l'univers du jeu vidéo, pour parler de mon univers et de mon secteur. Mais c'est comme ça qu'on se projetait déjà, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport au futur qu'on envisageait il y a 20 ans.
Okay, donc Facebook a lancé un buzzword en parlant de quelque chose qui existe finalement déjà depuis super longtemps, quoi.
Bah, Facebook, déjà, que fait Facebook actuellement? J'ai l'impression qu'ils essaient de faire en sorte que le terrain de la communication soit totalement saturé et que quand on pense métaverse, on pense Meta, on pense Facebook. Donc ça, c'est un premier sujet. Et un besoin, de toute façon, déjà, de faire penser à autre chose, parce qu'ils ont pas mal de casseroles, entre guillemets, qui les poursuivent. Et aussi, ils ont besoin de se réinventer. Une entreprise, en tout cas... par exemple, le réseau social Facebook, c'est un réseau social qui est vieillissant. La plateforme en elle-même est vieillissante. Hein. Il suffit d'aller sur le site et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plus de bugs que ce qu'on pourrait accepter dans beaucoup de sites internet. Et que la plupart des gens qui postent, moi, autour de moi, c'est des gens qui sont plutôt entre 40 et 70 que des jeunes et la future génération qui va faire le business de Facebook. Donc, est-ce que Facebook, on va dire... va sortir son épingle du jeu pour la suite et est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose qui va être assez intéressant et puissant et qui va les sortir de ce côté un peu old school, comme l'a vécu MySpace et tout ça, c'est un peu leur pari et c'est pour ça que je pense qu'il ils surcommuniquent en disant « Regardez, on est de nouveau cool et le futur cool, c'est nous. »
Je pense qu'ils ont verbalisé quelque chose qui existait depuis longtemps mais qui n'avait pas ce nom-là et qui était peut-être pas perçu dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait des expériences de réalité virtuelle, de réalité augmentée, des jeux multijoueurs, des univers persistants dans les jeux et effectivement, on n'avait pas placé de nom sur cet ensemble et sur cet écosystème. Je pense que là, ils arrivent à placer simplement un nom un peu nouveau, un peu moderne sur quelque chose qui existe avec une vision peut-être plus globale, moins éclatée que ce qui se faisait jusqu'à présent. Mais effectivement, je pense qu'ils ont, un fort besoin de se réinventer. Ils ont un fort besoin de réengager avec les audiences les plus jeunes qui perdent depuis de nombreuses années. Et on voit qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux des plus jeunes, c'est TikTok, c'est Fortnite. Et donc, il y a déjà des métavers, il y a déjà des environnements 3D avec des avatars sur lesquels les gens investissent pour les customiser, qui sont persistants et sur lesquels ils vont pour échanger avec leur réseau d'amis. Donc, je pense qu'ils avaient besoin de se positionner là-dessus pour aller... retoucher cette audience plus jeune, en tout cas se reconcentrer sur les générations de demain et pas sur celle d'hier.
C'est juste d'ailleurs de citer Fortnite comme un réseau social parce qu'en fait dans la tête des gens on pense pas forcément que c'est un réseau social mais en fait les gens socialisent énormément. Dans les gros événements qu'on a eu on va dire ces deux dernières années et qui ont un peu amorcé cette logique de métaverse et ont fait aussi de Fortnite un lieu social, quand on pose la question à des adolescents aujourd'hui qui sont sur Fortnite en nous disant « mais tu veux pas sortir avec tes potes, aller jouer, aller faire des trucs ?» Eux, ils répondent « non, je suis avec mes potes en fait. On est en train de socialiser, on est en train de regarder un concert de Travis Scott sur Fortnite, on est des millions et c'est incroyable. » Et j'avais vu il y a quelques années des tendances qui parlaient de Fortnite comme le futur du social media. Alors peut-être que maintenant c'est le métaverse, le futur du social media, mais c'est sûr que... l'écosystème dans lequel les plus jeunes interagissent est en train d'évoluer et c'est plus juste une plateforme un peu à l'ancienne dans une app où on a un fil, c'est une expérience qui est plus riche que ça.
Vous parliez de se socialiser, de se connecter, donc ça fait partie de l'un des trois axes qu'a un peu présenté Facebook lors de la présentation de son métaverse. Et est-ce que c'est encore un peu flou tout ça au final, après tout ce qu'on vient de dire, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de flou autour du métavers, mais ce qu'on voit un peu apparaître comme axe, c'est que ça va servir à se connecter, se sociabiliser, à jouer aussi, et à travailler, et ça, probablement, peu importe le lieu ou le moment, c'est un peu aussi ce qu'essaye de faire Microsoft avec Mesh, et ça m'amène à une question sur l'aspect de se connecter. Est-ce que ça va remplacer le métavers, les réseaux sociaux actuels?
Je pense que la question... Alors, j'ai travaillé dans les réseaux sociaux pendant longtemps, en agence social media et autres. Déjà, quand les réseaux sociaux se sont lancés, il y avait une promesse qui était « Ok, ce sont d'ailleurs plus précisément des médias sociaux, des médias sur lesquels on peut faire des interactions sociales. » Quand j'ai commencé à travailler en agence sur ce sujet, nous, on disait « Le plus important, c'est la partie sociale. Le côté média, en fait, est un peu annexe. » Ce qui s'est passé ces dernières années, parce que les annonceurs sont arrivés, qu'il y a de plus en plus d'argent qui investit dessus, c'est que maintenant c'est vraiment devenu un média avec le social en mineur. Et ce qui est un peu inquiétant pour la suite, c'est que Facebook a des milliards d'informations sur toutes les personnes qui sont connectées à son écosystème, Facebook, WhatsApp, Instagram et tout ça, et que le jour où il lance un écosystème type métaverse, ils auront aussi la capacité de retenir l'attention des personnes et surtout, à un moment donné, quand même, de leur vendre de la publicité parce que c'est leur modèle. Et ils ne vont pas proposer une inscription, en tout cas un abonnement au métavers. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à se dire oui, ça va vraiment être social, mais en réalité, ces interactions sociales vont surtout être là peut-être pour vendre de la publicité. Donc ça, c'est... Je pense que l'historique de Facebook joue contre lui sur ce que les gens vont pouvoir percevoir de ce qu'est ce métavers et surtout de tous les freins potentiellement que les gens vont avoir en disant mais si je m'intègre pleinement dans cet univers virtuel, Facebook c'est déjà trop de choses de moi et quelque part c'est un peu m'inquiéter, je trouve que c'est un peu dangereux.
Anthony, est-ce que c'est le futur des réseaux sociaux ou est-ce que ça va inquiéter les gens et freiner un peu le développement du métavers ?
Je pense que les gens sont déjà inquiétés sur les réseaux sociaux et sur la quantité de données personnelles que gèrent les GAFAM. Mais je pense que ça pousse la collecte de données un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut rendre l'expérience de réalité augmentée, de réalité virtuelle complète, ça veut dire qu'on capte le son et l'image en permanence. À partir du moment où on ne capte pas le son et l'image en permanence, on ne peut pas fournir le service qui a été montré. Donc ça pose des vrais problèmes de confidentialité, ça pose des vrais problèmes de gestion des données personnelles et de stockage des données tout court, parce qu'il va y avoir une quantité de données qui seront à analyser, à stocker, qui seront très nettement supérieures à ce qui est nécessaire aujourd'hui. Donc je pense que effectivement la collection des données, c'est un vrai sujet, mais que ça sera beaucoup plus complexe.
Je pense notamment à Oculus, il y a une certaine défiance de la part de la communauté Oculus, je suis dans plusieurs groupes Facebook qui parlent de ça, au moment où il a fallu un compte Facebook pour pouvoir utiliser son Oculus Quest. Là, avant, il fallait juste créer un compte, et soudainement, les gens se sont dit « mais moi, je ne veux pas en fait avoir cette connexion avec Facebook, qu'ils puissent aussi voir ce que je fais dans ces univers virtuels ». Et certaines personnes ont dit « ok, ben, je ne prendrai pas d'Oculus Quest, je pars de là ». Et récemment, avec le changement de Facebook vers Meta, Facebook a réduit justement cette obligation de devoir se connecter avec un compte Facebook, ce qui a rassuré la communauté, mais quand même, le premier mouvement qu'ils avaient fait était assez oppressant, on va dire, parce que c'était vraiment une volonté de verrouiller leur écosystème, là en l'occurrence l'écosystème VR.
Tout ça reste très flou, donc effectivement, ils ont communiqué qu'il n'y aura pas besoin de compte Facebook. Est-ce qu'il y aura besoin d'un compte ? Est-ce que ce sera agnostique ? Donc, est-ce qu'on pourra se connecter avec tout type de compte ? Encore une fois, le côté universel de la plateforme qui sera très complexe. Ou est-ce que ce sera un compte Meta, pour ne pas dire Facebook, simplement pour jouer sur les mots et faire de la com positive ? Voilà. En tout cas, la question se pose, mais je pense qu'à ce stade, c'est encore très trop flou pour pouvoir juger de comment ça sera implémenté.
Ah, c'est pas évident. On a surtout parfois... vu que Facebook a un peu monopolisé la présence médiatique, on a aussi du mal, je trouve, à essayer de se projeter sur que vont faire les autres plateformes sociales si elles vont créer leur métaverse. Alors, j'ai pas du tout envie d'aller dans un LinkedIn verse, par exemple. Juste où mon feed LinkedIn, je vois des publications.
LinkedIn est déjà un peu un univers virtuel, enfin, en tout cas un univers parallèle, à minima.
Ça fait un peu peur. Mais ça a posé aussi, parfois, ou certainement une problématique si de modèle économique. Aujourd'hui, Facebook, son modèle économique est basé effectivement sur le traitement de la donnée, mais parce qu'il permet aussi de vendre un ciblage qui est ultra précis. Fortnite, son modèle économique n'est pas forcément basé sur la donnée, mais sur la vente d'objets dans ce monde-là. Donc ça demande aussi à Facebook de permettre aux marques de s'intégrer dans ces univers-là, ces métavers-là. Donc est-ce qu'on ne va pas être débarrassé d'une certaine manière de la publicité pour en avoir une autre qui va être de virtualiser des objets qu'on va vouloir nous pousser à acheter. Mais ça veut dire que là, on va devoir sortir la main, mettre la main au porte-monnaie. Est-ce qu'on est prêt à le faire en tant qu'utilisateur de réseau social ? Enfin, c'est difficile aussi de se projeter sur quel sera vraiment le modèle économique du métavers et s'il y en a vraiment, ce qui ne sera pas uniquement sur le device, parce que le device, on peut l'acheter chez n'importe qui. J'ai du mal à projeter. Est-ce que vous avez déjà une idée un peu à quoi peut ressembler la publicité ? Parce que moi, je ne suis pas prêt à acheter un objet dans le métavers, j'aime pas ça. Enfin, je ne compte pas le faire, je n'ai jamais fait quand je joue à des jeux vidéo. Donc, et je ne suis pas non plus prêt à voir des genres de display apparaître sur d'autres éléments environnants et
en 3D. Donc, à quoi ça peut ressembler? Alors là, on parle un peu plus loin, on parle un peu plus marketing. Mais...
Alors, moi, j'ai trouvé que Mark Zuckerberg, pour le coup, avait été très clair sur le modèle économique. Donc, il s'éloignait du média et de la publicité, même si ça restera forcément omniprésent avec les marques qui pourront offrir des expériences beaucoup plus abouties, présenter les produits peut-être de manière beaucoup plus pertinente par rapport à un écran plat. Mais il a parlé d'économie créative et de business model et d'économie créative. Donc il y a clairement dans son intervention la volonté de vendre des objets virtuels et pourquoi pas de devenir le Amazon digital de demain et de se positionner sur la distribution d'objets en plus de la maîtrise de la plateforme et de la vente de médias. Et cette économie créative, elle sera sourcée par des créateurs de contenu qui viendront créer des objets, des événements qui seront clairement monétisés. Ça a été clairement mentionné.
Je pense que sur ce blocage aussi, sur l'achat d'objets virtuels, il vient peut-être aussi de notre vision un peu européenne. Parce que si on regarde en Asie, une plateforme comme Line ou même des plateformes comme WeChat, aujourd'hui les gens peuvent acheter des stickers. Ils peuvent acheter des stickers pour réagir, ça va coûter l'équivalent de 4 ou 5 dollars, donc on a l'impression que voilà, ça fait pas trop mal et c'est pas cher, mais en réalité ils font énormément d'argent par rapport à ça. Sur du WeChat aussi, il y a des choses qui sont sponsorisées par les marques, il n'y a pas d'abonnement payant, il n'y a pas vraiment de publicité, mais il y a quand même une intégration des marques sur ça, et dans ces cultures-là, c'est plus normal. Et peut-être qu'il y a aussi une question générationnelle. Sur les jeux vidéo, par exemple, ce qu'on appelle les free-to-play ou les freemium, tout le monde n'achète pas des objets. Par contre, certains qui achètent des objets achètent beaucoup d'objets. Donc, c'est un peu comme dans le jeu, je sais pas, par exemple, le jeu PMU et tout ça. Hein. Il y a des gens qui sont des très, très, très gros joueurs qui investissent énormément. Il y en a d'autres qui jouent de temps en temps, qui investissent, mais en réalité, ça représente quand même des sommes qui sont assez colossales.
Alors, c'est je pense, beaucoup plus générationnel que culturel. Et en allant cibler les plus jeunes sur ce type d'économie, je pense qu'il y a une attente, il y a un mode de consommation qui est déjà établi, on le voit bien dans les jeux vidéo. C'était le cas de quelques exceptions il y a quelques années, mais maintenant c'est vraiment le modèle économique principal du jeu vidéo, c'est l'achat de contenu additionnel qui est souvent un objet virtuel cosmétique. Donc on est déjà dans cette économie-là, notamment dans les jeux vidéo. C'est pas le modèle économique unique du jeu vidéo, mais aujourd'hui, c'est une grosse partie du marché du jeu vidéo qui repose sur cette vente d'objets virtuels. Donc les nouvelles générations aujourd'hui sont très demandeuses de ce type de produits digitaux.
Et du coup, si on veut aussi amener des objets qu'on a peut-être achetés en vrai, est-ce que pas, je me projette, mais l'idée me vient spontanément, mais est-ce que pas aussi d'avoir peut-être une option à l'achat quand on achète un objet d'une marque de luxe, un sac Dior, une montre Breitling, qui travaille en plus avec une plateforme qui s'appelle Ariany, qui permet d'avoir un jumeau numérique et un jeton NFT pour suivre un petit peu toute la vie de sa Breitling. Est-ce qu'on, avec ce jeton-là, ce qui authentifie et ce qui certifie notre achat, est-ce qu'on risque pas aussi d'avoir parfois des modèles aussi pour les grandes marques, et peut-être après ça va être très généralisé aux marques grand public, avec une option où on peut acheter une version virtuelle de cet objet-là pour la réutiliser aussi dans le métaverse, ce qui permet d'alimenter un petit peu le modèle économique du média, si des gens ne sont pas prêts à s'acheter des propres objets et des choses qui sont vraiment faites pour cet univers-là, elles veulent retrouver leur propre univers, des objets qu'elles possèdent déjà, ce qui permet aussi de s'affirmer en termes de design. On ne choisit pas tel skin Fortnite versus tel autre sans raison. Donc est-ce qu'il n'y aura pas aussi cette vraie transformation un petit peu du monde réel dans le monde virtuel? Et même chose si on achète... Parce qu'au bout d'un moment, si on a un casque ou des lunettes, si on reste vraiment sur cette idée-là et qu'on n'a plus d'écran de télé, on n'a plus de télévision, c'est-à-dire quelle marque on va acheter, quel PC on va acheter si on veut jouer ou on veut avoir un écran de marque Asus ou de je ne sais plus quelle autre marque. Donc il y aura peut-être aussi un besoin d'amener des marques et de les pousser aussi là-dedans, qu'on n'achètera pas directement dans le métaverse, mais qu'on aura peut-être aussi en option à l'achat. Est-ce que... Alors, on part très loin, c'est... Voilà, on n'est pas encore sur du concret, mais est-ce que ça vous semble quelque chose, que ce soit quelque chose de probable ou est-ce que c'est hautement improbable?
Alors, Ça a déjà existé. Il y a déjà des marques qui, en vendant des objets physiques, proposaient leur équivalent, je ne sais pas, ça pourrait être un skin dans tel ou tel jeu. Donc, il y a déjà eu des choses qui ont été testées par rapport à ça. Aussi, quand on parle des objets virtuels qu'on peut aussi acheter ou collectionner, bon, on parle bien sûr aussi des NFT en ce moment. Hein. On va dire que ça fait un peu plus d'un an qu'il y a une excitation aussi sur le sujet. Un peu comme les cryptos de manière générale, l'idée c'est plutôt, on va dire, d'augmenter son capital et de revendre, et voilà. Et puis il y a aussi des énormes frais hein, qui sont liés par exemple au NFT aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les gas fees hein, qui sont en fait, quand on va acheter par exemple un objet qui va coûter 1$, ben, en fait il faut payer les frais de la blockchain et un objet d'un dollar peut coûter 101$ aujourd'hui. Donc il y a aussi des sujets de si à un moment donné on achète des objets virtuels via par exemple la blockchain, comment est-ce qu'on gère aussi ça qui fait que bah, c'est un énorme blocage. Aujourd'hui, il y a des gens qui font beaucoup d'argent. Hier, je déjeunais avec un ami qui me disait « Là, j'achète un appartement et j'ai dû vendre 2 NFT pour payer 20% de mon apport. » Et j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit « Ok, c'est très, très 2021. » Mais lui est dans ça, d'ailleurs, il me disait aussi, et là on a un studio ARVR, et en fait on veut le rebrander en studio Metaverse. Et il est totalement juste, je pense, par rapport à ça, au bon moment et autres. Mais il y a beaucoup d'éléments en fait qui existent aujourd'hui, mais est-ce que ça va être simple? Est-ce que ça va être efficace? Est-ce que tout à chacun peut comprendre le sujet, en dehors des technophiles qu'on peut être autour de cette table, ou des personnes qui sont déjà dans les sujets crypto, dans le gaming et autres? Parce que bah, le but de Facebook, c'est quand même, ou de n'importe quel GAFAM, c'est quand même de toucher un maximum de personnes, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C. Et si la compréhension du sujet n'est pas claire, si c'est pas simple, si on ne comprend pas exactement ce qu'on doit y faire, ce qu'on peut acheter, tout ça, ça va être un petit peu dur. Mais si à un moment donné, on passe plus de temps dans ces univers virtuels, on voudra avoir des choses pour être cool dans cet univers virtuel ou pour montrer un certain statut et ce genre de choses. Se dire, oui, ben moi, je vais faire ma réunion virtuelle dans un univers virtuel qui, par exemple, appartient à Microsoft et je vais m'acheter un nouveau costume parce que mon costume, là, il m'ennuie un peu. Et puis là, j'ai une grosse présentation avec mes petits avatars virtuels clients et j'ai besoin de représenter. Donc, en fait, on se dit, c'est virtuel, du coup, ça a peut-être moins de sens ou moins d'intérêt. Si on parle du jeu vidéo World of Warcraft, par exemple, il y a énormément de gens qui ont passé du temps dedans, se sont fait des vraies amitiés, il y a des gens qui se sont mariés, il y a des gens qui, dans la vraie vie, ensuite ont eu des bébés. Donc, en fait, c'est réel. C'est juste, je trouve, faire cette différence entre réel et virtuel, et pas très 2021. Parce qu'en réalité, on est déjà immergé dans une partie de virtuel, même si ce n'est pas au point où veut nous emmener un Facebook, par exemple.
Et les marques se positionneront forcément. Alors les plus novatrices se positionneront d'abord pour cette image de modernité, pour faire de l'exploration, pour faire de la communication. Et puis il y aura tout un tas de modèles économiques qui viendront, ils seront 100% digitaux, ils seront hybrides, physique-digital. En tout cas, les marques chercheront à rentrer dans ces univers-là. À partir du moment où il y a une audience, où leurs clients utilisent et sont présents dans ces univers-là, les marques chercheront à se positionner et à offrir des produits et des services. Après, est-ce que ça deviendra mass market? Est-ce que ça restera pour les early adopters et pour quelques marques un peu techno? Je pense que, comme pour les utilisateurs, ça dépendra de quelle est la barrière à l'entrée. Est-ce que la barrière à l'entrée, c'est simplement d'acheter un device à 100€ pour pouvoir y aller, ou est-ce que la barrière à l'entrée, ça sera de devoir investir dans un casque de réalité virtuelle avec des gants, une combinaison qui coûteront des milliers d'euros, qui devront être connectés en haut débit mobile en permanence. Voilà, donc un certain nombre de contraintes techniques et de barrières à l'entrée qui feront que les marques iront massivement ou pas.
Et je pense que certaines marques d'ailleurs le comprennent tout de suite, parce que moi en septembre 2020 j'ai été briefé par le directeur e-business d'un grand groupe de produits de consommation, et son sujet c'était: il y a 350 millions de personnes sur Fortnite, ce sont des personnes qui ne passent pas du temps ailleurs potentiellement, comment est-ce qu'on fait pour leur parler, comment est-ce qu'on peut intégrer? Et en fait on avait fait une présentation pour tous les responsables marketing de toutes les entités de ce groupe pour leur dire: voilà l'état de ce qu'est aujourd'hui le sujet du métavers, voilà ce qui est fait par différentes marques sur plein de sujets différents, et voilà les opportunités que vous pourriez avoir. Et le fait qu'ils se posaient déjà les questions il y a un an, je trouve ça très intéressant, parce que c'est vraiment un très 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 gros groupe, on va dire agroalimentaire, et ils ont un intérêt par rapport à ça. Après, sur le sujet de comment est-ce que les marques y arrivent, je pense que c'est la même chose que sur toutes les actions de communication. Tu parlais par exemple du fait que les marques vont arriver, certaines vont vouloir faire un peu un coup, ce qu'on va dire un coup RP, donc un coup de relations presse ou de relations publiques. Ça, c'est intéressant, mais ça n'a qu'un temps. Et c'est les premiers, entre guillemets, qui vont récolter les fruits en disant bon, on était les premiers à faire telle chose dans le métaverse, à faire telle interaction. Mais si on reprend un peu les bases de la communication, il faut d'abord se poser la question de c'est quoi les objectifs ? Est-ce que je comprends assez les codes de la plateforme ? Est-ce que je les respecte assez pour faire quelque chose qui soit efficace et surtout qui soit pérenne ? Et je trouve que les marques, souvent, quand il y a un buzz, type le métaverse, type les chatbots et tout ça, ne se posent pas assez cette question. Ils vont être baissés. Et à un moment donné, ils relèvent la tête en disant « Bon, bah, en fait, on a dépensé beaucoup d'argent et l'impact n'a pas été forcément incroyable. Certes, on a eu des retombées, mais voilà. » Et qu'elles se posent dès le début les bonnes questions par rapport à ça, moi, je trouve que ce serait rassurant sur l'intégration de ces nouveaux univers virtuels. Et de se poser aussi la question de « Ça veut dire quoi ma marque en trois dimensions ? Ça veut dire quoi ma marque dans un univers qui est virtuel ?» Parce que je vois très bien ce que ça donne sur une affiche, sur du social media, mais qu'est-ce que c'est ma marque à l'intérieur d'un Fortnite, d'un métavers de Facebook ?
Alors, je pense que il y a effectivement une question à se poser sur la manière d'intégrer ces univers-là et la raison pour laquelle on y va et quelle est la stratégie derrière, effectivement. Ce qu'il faut bien percevoir, c'est que la barrière à l'entrée technologique, là aussi, elle sera beaucoup plus forte. Aujourd'hui, ouvrir un réseau social pour une marque, c'est quelques lignes de texte et une image. Demain, aller dans un environnement 3D en offrant des expériences un petit peu avancées, le coût à l'entrée sera absolument plus le même. Il faudra du développement, il faudra des développeurs 3D qui ne sont pas si nombreux sur le marché et qui sont très recherchés. Donc je pense que la barrière à l'entrée, là aussi technologique, technique pour les marques, elle sera beaucoup plus forte. Elle demandera un niveau d'expertise beaucoup plus important que celui qui est nécessaire aujourd'hui pour aller sur le web.
Peut-être juste sur cette barrière, en fait, je me suis beaucoup intéressé au sujet réalité augmentée, réalité virtuelle, donc j'ai dû commencer vers 2008, et au début c'était très compliqué. Il fallait un gros ordinateur avec une webcam, avec ce qu'on appelait des marqueurs pour pouvoir faire apparaître quelque chose, et c'était pas du tout simple. Le jour où Snapchat a racheté une boîte en Europe de l'Est pour commencer en fait à faire des filtres de réalité augmentée, déjà ça a commencé un peu à ouvrir la réalité augmentée par exemple à différentes personnes, mais surtout depuis que autant Instagram que Snapchat ont développé des sortes de studios en ligne qui permettent de créer des filtres, ben on est passé de « Ok, un filtre en création, ça va vous coûter 50 ou 60 000 $» à « Vous avez la possibilité de le faire vous-même, vous avez des tutoriels pour les faire vous-même. » Donc c'est vrai que ça va prendre aussi du temps, mais je pense qu'on peut aussi avoir un écosystème et surtout des sortes d'outils qui vont être développés par ces plateformes en se disant « On va vous mettre différents blocs et vous allez aussi pouvoir construire votre univers virtuel. Comme ça s'est fait à l'époque d'ailleurs sur Second Life, hein, quand les partis politiques en 2007 ou des entreprises comme Areva à l'époque ont créé leurs îles, ils ont créé différents assets avec des graphistes et autres, mais ils avaient aussi des blocs qui étaient fournis par la plateforme et qui leur permettaient de construire quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est idéal et parfait, mais en tout cas, le fait de faciliter l'intégration dans ces mondes, je suis sûr que des plateformes comme Meta ou comme TikTok, par exemple, si à un moment ils se lancent sur le sujet du métaverse, vont le faire pour faciliter ça parce qu'il y aura un besoin d'accélération. Si effectivement il y a ce blocage technique, ça va freiner beaucoup de marques. S'il n'y a que les très grosses marques qui vont y aller, et avec une question du retour sur investissement de ces marques en disant mais est-ce qu'on n'a pas trop investi par rapport à ce que ça nous rapporte ?
On parle beaucoup des jeux depuis avant. On a parlé de Fortnite, on a parlé de World of Warcraft, que Valentin connaît bien d'ailleurs, je crois.
Oui, j'ai beaucoup d'heures de jeu, voire même plusieurs années, je crois, accumulées.
Et ça m'amène, c'est une transition un peu toute trouvée, mais pour parler un peu aussi des jeux, on en parle depuis le début de cette émission, c'est un aspect hyper important du métavers ou des métavers. Et alors, question bête, mais un peu bateau, est-ce que le métavers, c'est un peu l'avenir au final du jeu vidéo ou du jeu tout court même ? Anthony, est-ce qu'on en parle peut-être un peu plus du métaverse chez Bandai ?
Alors, le métaverse, non, parce que c'est encore tout frais comme terminologie. En revanche, dans l'univers du jeu vidéo, l'engagement avec les communautés, aujourd'hui et depuis très longtemps, ça a toujours été la priorité. C'est un enjeu important pour fidéliser et ces environnements persistants, c'est quelque chose sur lesquels effectivement on travaille au quotidien. Alors, dans un métavers spécifique qui est le jeu avec un univers dédié, parce que c'est ce que recherchent nos communautés, mais oui, dans le jeu vidéo, aujourd'hui, les environnements persistants, que ce soit sur des jeux massivement multijoueurs ou non, mais en tout cas, les environnements persistants et l'engagement de nos joueurs dans ces environnements-là, effectivement, c'est le quotidien.
Mathieu, est-ce que c'est l'avenir du jeu, le métavers ?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bah, ce qui est sûr, c'est que le jeu sera intégré dans ce métavers. Hein. Mais en fait, si on se dit que le métavers est l'équivalent de notre monde réel, à l'intérieur du métavers, il y a plein de choses. Il y a la possibilité de parler à des gens, il y a la possibilité de jouer, il y a des possibilités de se déplacer, il y a des possibilités d'aller au travail, de faire des réunions. Donc oui, après on parle aujourd'hui beaucoup du jeu vidéo parce que où sont les grands bassins d'audience actuellement ? Bah, typiquement c'est du Fortnite, tout à l'heure on parlait de Roblox, on va parler de Minecraft et ce genre de choses. Donc c'est des endroits où il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Mais tout comme par exemple sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Donc en fait on va chercher là où il y a le plus de personnes dans des univers virtuels pour aussi les intégrer dans cette future logique qui sera le métavers. Mais on parle beaucoup du jeu vidéo parce que en fait c'est aussi des univers qui sont générés artificiellement, enfin en tout cas générés par des machines, que derrière il y a des vrais humains qui interagissent avec des avatars et tout ça, tous les éléments qu'on a dit avant. Donc c'est logique de relier ça au jeu vidéo. Mais on pourrait dire aussi, du coup, est-ce que Fortnite, par exemple, est un jeu vidéo seul ? Non, en fait, on a vu que c'était aussi une plateforme sociale, c'était quelque chose qui était devenu plus large. Et ce qui ressemble plus aujourd'hui peut-être à un métavers, c'est typiquement un Fortnite, mais augmenté de plus de choses que ce qu'on vit dans la vraie vie, en fait. Hein. Pas simplement, je sais pas, se poser pour un café. L'entreprise que j'avais accompagnée, par exemple, je leur avais dit, mais est-ce que quand on va dans un café virtuel dans Fortnite, est-ce qu'on peut pas prendre telle marque de café, la payer, s'acheter un truc virtuel comme ça ? Il y a plein de choses qui peuvent être imaginées, mais donc se dire, c'est on passe pas H24 de notre temps à jouer aux jeux vidéo. Notre vie est plus globale. Peut-être qu'on joue beaucoup aux jeux vidéo, mais donc dans ces univers, on va faire différentes choses, dont du jeu.
Et que ce soit pour les jeux vidéo ou non d'ailleurs, ou pour tout ce qu'on peut faire d'autres. Il y a aussi la question, on l'a un peu évoqué avant, de l'accessibilité, du prix, notamment des équipements qu'il va falloir se procurer pour jouer ou pour même aller prendre un café virtuel. Est-ce que vous pensez que ça va être accessible en termes d'équipement, par exemple ?
Il y a déjà plusieurs équipements ouverts pour jouer sur un PC, pour jouer sur une PlayStation, etc. Après, est-ce que le métaverse, si on relie tout à ça, en fait, va pas aider à pousser aussi, à amener plus d'expériences immersives, ou est-ce que finalement ça n'arrive pas au bon moment et qu'il y a déjà des développements et des tests de technologie pour apporter plus d'immersion dans le jeu vidéo ? T'en parlais tout à l'heure, Mathieu, avec des combinaisons, des gants, il y aura aussi des casques en réalité virtuelle qui seront plus aboutis, moins fatigants aussi, je pense, d'un point de vue ergonomique. Donc est-ce que finalement ça ne va pas démocratiser un petit peu plus d'expériences immersives ? Si on parle vraiment de se projeter dans un univers où effectivement avoir deux volets, en fait, au-delà de l'immersion, en fait, il y a surtout le côté, pas monde ouvert, mais un endroit dans lequel on peut se retrouver, où vraiment on a ces deux-là, où la notion d'équipement, on n'a pas besoin d'avoir un gros équipement pour jouer à Fortnite. Par contre, si on a envie de se projeter dans un univers, sur une nouvelle licence ou un jeu qui va vraiment nous emmener très très loin, effectivement, on aura peut-être besoin d'un gros équipement, et là on ira très loin. Donc est-ce qu'on est vraiment sur uniquement ces deux spots-là, ou est-ce qu'on risque d'avoir encore d'autres petits ponts entre les deux ?
L'équipement seul n'a pas vraiment d'intérêt, dans le sens où aujourd'hui, on est tous prêts à mettre des centaines, voire 1000 euros dans un téléphone. Et on pourrait se dire, mais c'est incroyable, j'aurais jamais mis autant d'argent il y a 15 ans peut-être dans un téléphone. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? C'est pas parce que c'est seulement un téléphone qui fait des belles photos. Hein. Par exemple, l'iPhone est très cher, mais c'est pas celui qui prend les meilleures photos, c'est peut-être pas celui qui est le plus abouti par rapport à d'autres concurrents. Par contre, quelle est la force de l'iPhone le jour où il est lancé ? C'est qu'il y a l'App Store. Et que dans l'App Store, il y a la possibilité d'avoir accès à différents services. et que ces différents services rendent accro les gens. Ce matin, j'ai vu une vidéo qui parlait de TikTok et qui expliquait comment est-ce que l'algorithme était fait et tout ça, et comment est-ce qu'en fait on pouvait capter l'attention des gens. Le smartphone est pensé via les différentes apps et tout ça, uniquement, principalement quand même, pour capter l'attention des gens et pour garder leur intérêt. Donc si derrière on a un device, peu importe lequel, et qu'on propose une expérience immersive qui rend un peu accro, bah, toutes les personnes qui vont tester vont avoir envie en fait, d'acheter ce device ou n'importe quel device qui permettra de se connecter. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Quand on fait tester un casque de réalité virtuelle, parfois il y a des expériences qui sont super, parfois il y a des expériences où les gens vont se dire « Ok, c'est cool, mais bon, j'aurais testé la réalité virtuelle. » Je pense que le risque qu'il peut y avoir avec le métavers, c'est « Ok, c'est cool, bon, j'aurais testé, c'est sympa. » Et donc qu'il n'y ait pas un intérêt très fort comme il y a pu l'avoir au début de Facebook par exemple en France en 2007 où il y avait un peu ce côté nouveau, connexion, on allait en voyage, bah, une personne qu'on rencontrait c'est « Ah je t'ajoute sur Facebook ». Ça n'arrive plus aujourd'hui parce qu'en fait bah, on s'ajoute autrement, on va s'ajouter je sais pas sur un WhatsApp, sur un Telegram et autres, mais à quel point est-ce que les gens vont être un petit peu quand même accros dans ce qui peut être proposé dans cet univers. Et donc, bah, le device, oui, c'est un sujet, mais on voit qu'on peut mettre aujourd'hui beaucoup d'argent dans les devices pour se connecter déjà à Internet, à différents réseaux sociaux. Et après, c'est qu'est-ce qui est proposé derrière qui mérite que je mette de l'argent dans ce device pour me connecter à quelque chose qui est à minima cool, voire incroyable.
Après, pour remettre ça dans une temporalité, s'il faut équiper les 2 ou plus milliards d'utilisateurs de Facebook pour les envoyer dans le métaverse et atteindre la même audience, ça va prendre quelques années dans un contexte de rupture de composants, dans un contexte de réchauffement climatique et d'économie d'énergie sur les ressources. Or, le métaverse présenté par Facebook semble être ultra consommateur de ressources de par sa complexité et le fait qu'il y ait beaucoup de choses en 3D et énormément de calculs derrière. Donc, je pense que c'est plutôt une question de temporalité et de priorité pour les entreprises au niveau mondial. Est-ce qu'on aura la capacité de consommer cette énergie-là? Est-ce qu'on aura la capacité de créer tous ces nouveaux devices avec la rareté de minerais, avec les complexités qu'il y a actuellement sur les composants qui sont de plus en plus rares et recherchés? Voilà, je pense qu'il y a une vraie problématique autour de ça.
Tu viens de parler justement du contexte un peu de pénurie, justement une pénurie qui vient en partie de la demande qui a explosé avec notamment la pandémie, dont on n'est pas encore sorti. Et justement, cette pandémie, elle a amené à un chamboulement aussi dans le monde du travail avec du télétravail, du travail hybride. Est-ce que le métavers, pour le coup, a un avenir dans le monde du travail et surtout avec cette période justement de pandémie qui force un peu le travail à distance? Valentin?
Difficile à dire. Moi, dans ce que je vois, et si je dois commenter ce que j'ai vu aussi dans ce qu'a montré Microsoft, et que je me projette aussi avec toute la typologie de personnes avec qui je suis amené à échanger dans le cadre de mon travail, bah, et je pense que tout le monde n'ira pas dedans, et ce sera une question de choix. Et ce qu'a bien aussi montré Microsoft dans la vidéo de présentation, c'est qu'il y a des personnes qui se connectaient avec leur webcam de manière très classique, sur Mesh, et qu'il y avait d'autres qui étaient juste avec un avatar en 2D, il y en avait un autre qui était totalement virtualisé, avec un vrai avatar en 3D qui bougeait, etc. Donc, est-ce qu'il a un avenir? Oui, mais est-ce qu'il sera beaucoup utilisé? Pas forcément. Il y avait aussi des environnements virtualisés créés pour Accenture, notamment. Accenture qui avait, en plus on en avait parlé pas très longtemps avant sur Cycle Digital, vous avez acheté, je crois, 60 000 cases VR, ils ont parlé d'éducation. Est-ce que créer un monde virtuel pour l'entreprise alors qu'on bosse depuis chez soi, est-ce que ce sera pas trop? Est-ce qu'on sera prêt à passer 35 heures? Enfin, je pense qu'on va essayer aussi d'en parler, d'aborder un petit peu ces points-là ensemble, mais moi, je le trouve difficilement généralisable dans le monde du travail. De toute façon, tous les métiers n'étaient pas prêts aussi à télétravailler, donc tous les métiers ne sont pas prêts aussi à faire des réunions dans le monde virtuel. Est-ce qu'on sera aussi efficace en réunion, déjà qu'on a des réunions où parfois on passe une heure à discuter d'un truc qui en 5 emails aurait été fait. Donc est-ce qu'en étant dans un environnement virtualisé, on risque pas encore plus d'avoir une notion peut-être d'amusement ou de non-sérieux et de s'éloigner un peu du sujet? Il y a une question de productivité un petit peu. Voilà, donc moi je pense que ouais, c'est difficilement généralisable, mais ça peut avoir un intérêt dans certains cas.
Moi, je pense que ça peut avoir un intérêt dans ce contexte-là par le côté présentiel qui n'est pas forcément disponible en vidéo. On est vraiment via écran interposé. Je pense que ce côté présentiel et interaction et sociabilité un peu plus forte, c'est ce qui a manqué pendant le confinement, c'est ce qui a manqué et ce qui manque encore dans le télétravail. C'est qu'on est vraiment très éloigné des autres. Alors on a les moyens de communiquer avec eux, ça c'est artificiel, il faut prendre rendez-vous, il faut se fixer une date. Donc la discussion de la machine à café, c'est un petit peu loin. Mais on a besoin de ce lien-là, on a besoin de se maintenir là. Si on vous regarde les côtés négatifs du confinement dans le monde professionnel, on a vu qu'on pouvait continuer à fonctionner, ensemble très bien avec des gens qu'on connaissait depuis longtemps, mais le lien social a manqué. Donc ça peut rajouter, je pense, du lien social, ça peut faciliter les échanges et rajouter une dimension présentielle dans un contexte d'échange professionnel. Après, est-ce que ce sera en permanence ou est-ce que ce sera ponctuel dans le cadre d'une prise de rendez-vous, d'une réunion, d'un salon ? Ça je ne sais pas. Ce que je peux dire en revanche, c'est que vu notre capacité à supporter le masque toute la journée, supporter un casque de réalité virtuelle ou des lunettes connectées toute la journée, ça me semble aussi assez présomptueux.
Ouais, sur ce sujet, en fait, il y a différentes choses. Déjà, on parle du Covid. Tout le monde se met d'accord sur le fait que le Covid a été un accélérateur de transformation pour beaucoup d'entreprises. Moi, je l'ai vu par exemple dans mon entreprise, hein, où à la sortie du premier confinement, on a beaucoup d'entreprises qui se posaient la question de se transformer, d'accélérer tout ça, qui en fait ont commencé à faire des appels d'offres, à se lancer sur le sujet. Il y a eu aussi la volonté de se dire, on ne peut pas se rassembler physiquement, comment est-ce qu'on arrive par exemple à faire des séminaires, comment est-ce qu'on arrive à faire des événements. Et il y a eu des tentatives d'événements virtuels. Moi, par exemple, j'avais participé à Laval Virtual. Donc Laval Virtual, à la base, c'est un salon de réalité virtuelle qui se passe à Laval. Et ils ont fait une sorte d'île virtuelle dans laquelle on pouvait faire des conférences, chacun avait son avatar. Et ils ont quand même réussi à rassembler à l'époque 16 000 personnes dans cet univers virtuel, mais sur une population qui est particulièrement adepte de réalité virtuelle, de technologie et tout ça. Après, si on se pose la question de c'est quoi aujourd'hui le côté numérique dans les entreprises ? Moi, je fais du conseil en transformation numérique pour pas mal de boîtes. Et l'arrivée du confinement, le télétravail et tout ça a impliqué, par exemple, l'arrivée des outils collaboratifs. Donc beaucoup d'entreprises sont passées notamment sur Teams, avec Microsoft, certains sont passés sur Zoom. Voilà, beaucoup de discussions par rapport à ça. Mais si on prend juste Teams, qui est une plateforme qui permet d'avoir des éléments collaboratifs, de partager des fichiers, de faire de la visio et tout ça, la plupart des gens ont quand même une forte résistance au changement par rapport à ça. En fait, ils sont un peu stressés, ils osent pas forcément se mettre dans le sujet, et en fait ça prend du temps. Et moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup dans mes missions sur l'accompagnement au changement, l'intégration de ces nouvelles façons d'échanger sur le numérique. Et je n'imagine pas, on va dire à moyen terme, que ces gens qui déjà ne veulent pas utiliser du Teams ou l'utilisent difficilement puissent se dire « Ok, maintenant, on va faire toutes les réunions dans un univers virtuel ». Par contre, le faire de façon événementielle, lors d'un salon, lors d'un événement qui rassemble beaucoup de gens, parce qu'on parlait justement de l'impact environnemental, en fait, on prend moins l'avion et en fait, peut-être pour cette heure de réunion, on n'a pas besoin de faire un jour de trajet. Là, il y a un intérêt et de se dire aussi, c'est un peu sexy, c'est un peu nouveau, c'est un peu intéressant. Et quelque chose qui est peut-être anecdotique, mais moi, par exemple, j'ai pas mal de clients qui, quand ils font de la visio, ne veulent pas mettre leur webcam. Ça les stresse, ils sont pas habitués, ils ont pas envie de se regarder. Des fois, ils font 7 heures de Zoom pendant la journée et en fait, ils en ont marre de montrer leur tête. Alors que si je suis dans un univers virtuel avec un avatar virtuel, c'est moi qui suis représenté, mais c'est pas totalement moi. Donc je pense qu'il y a aussi un peu ce côté potentielle prise de recul en se disant je participe à quelque chose en tant qu'une identité que j'ai choisie et en tant que un avatar et je suis à l'aise avec le sujet plutôt qu'avec mon être habituel que j'ai pas envie de montrer en webcam.
Est-ce que c'est une question de génération aussi, peut-être, cette difficulté face au changement par rapport à Teams, etc.
Alors, je mets en place ce qu'on appelle, nous, des baromètres de confort numérique dans les entreprises, où on pose la question aux gens de est-ce qu'ils sont à l'aise avec tel ou tel outil, et on pose aussi en introduction la question du métier et des générations. Et dans tous les baromètres qu'on a pu mettre en place, en fait, c'est pas du tout un sujet de génération. Parce que c'est un peu comme se dire oui, les gens de la génération Y, les millennials, les baby boomers, ils sont comme ça. Ben non, en fait, les gens sont différents. Alors certes, il y a un peu des trends, des tendances qui peuvent émerger par rapport à ça. Mais c'est plus une question de développement personnel, de curiosité, d'aptitude justement à se dire le monde a changé. Et d'envie en fait d'avancer. Et dans les entreprises de manière générale, moi je le trouve assez triste que les gens perdent souvent un peu leur curiosité ou un peu leur passion, parce que le fait de pas avoir de curiosité fait que justement on va attendre une formation pour nous expliquer comment fonctionne Teams, alors que Teams n'est par exemple pas un outil qui est très compliqué. Si on clique un peu sur les différents onglets, on peut comprendre comment ça fonctionne. Et il y a pas très longtemps, j'ai échangé avec un client qui me disait je ne comprends pas que dans la vraie vie la plupart de mes collaborateurs aient compris du jour au lendemain l'intérêt d'avoir Zoom, l'intérêt d'utiliser un WhatsApp, l'intérêt d'utiliser tous ces outils numériques lors des confinements, mais que quand je leur propose des outils numériques pour travailler entre nous dans l'entreprise, ils me disent « Ah, on n'a pas été formés. Ah non, on ne comprend pas. » Et donc, il y a quand même un peu ce côté, dans la vraie vie, quand on doit survivre, entre guillemets, on arrive à trouver des solutions. Et dans l'entreprise, parce qu'on est un peu habitué à être accompagné, bordé, c'est un peu plus dur.
Alors, je pense qu'il y a un gros écueil culturel là-dedans. J'imagine que tu travailles beaucoup avec des entreprises françaises.
C'est le cas.
mais pour te contredire sur un point et sur l'adoption, je pense que c'est aussi lié aux interfaces et à l'expérience utilisateur. Je pense que nous, on travaille beaucoup avec Teams, avec Microsoft 365. C'est pas forcément très fluide, c'est pas forcément très facile d'accès. De même que l'iPhone a révolutionné l'usage du mobile avec des interfaces très très simples que des enfants d'un ou deux ans étaient capables d'aborder et de comprendre immédiatement. Je pense que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée ou le métavers pourrait amener des usages qui sont beaucoup plus naturels et fluides et qui donc permettraient une adoption beaucoup plus simple du plus grand nombre. Après, sur la partie avatar, je trouve ça intéressant aussi parce qu'effectivement, il y a la notion de réalité virtuelle ou de monde digital dans lequel on peut se projeter avec sa propre image. Mais aussi avec une image différente, idéalisée, qui pourrait, via maintenant les technologies disponibles, refléter parfaitement ou quasi parfaitement ces émotions. Et nous, chez Bandai Namco, on a investi 3 millions de dollars l'année dernière dans une société, dans une start-up américaine qui s'appelle Genies, qui justement crée des avatars en 3D. Et dans les jeux vidéo, les avatars, ça existe depuis longtemps, et on est convaincu qu'effectivement, il y aura besoin d'une image dans un monde virtuel, dans un monde digital, qui pourra être différente de celle du quotidien et qui permettra de prendre énormément de liberté ou d'adapter son image en fonction du contexte, comme aujourd'hui on va changer de tenue en fonction du contexte professionnel, sportif, du quotidien. Donc je pense que ça c'est un élément aussi important de quelle image on va vouloir renvoyer dans cet univers.
C'est vrai que c'est assez rigolo, d'ailleurs, on a parlé des avatars hein, tout au long, mais enfin, depuis les tout premiers jeux vidéo, on pouvait créer un skin sans trop se poser de problème, hein, choisir la couleur de peau, le genre du personnage, la coiffure, la pilosité, et tout ce qu'on voulait, avec des niveaux très aboutis pour certains jeux. Je crois que c'est pas Mass Effect, je sais plus, j'y avais pas joué encore, mais je crois que c'est celui qui proposait le plus de choses. Cyberpunk aussi proposait quelque chose d'assez abouti aussi, avec quelques frasques. Mais ouais, est-ce que l'avatar, finalement, aujourd'hui, c'est pas le skin qu'on avait dans le jeu vidéo, on va essayer de le retransposer dans le monde du travail. Et est-ce qu'on va autoriser aussi peut-être les gens, je sais pas si ça me projeter, mais est-ce qu'on va autoriser les gens à avoir des choses un peu plus qui sortent du corporate? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pas venir déguiser, est-ce qu'on va vraiment essayer d'avoir un avatar virtuel qui va vraiment représenter l'autre? Je sais pas, dans vos entreprises respectives, est-ce que imaginez que vous faites un Teams sur Mesh ou un autre logiciel de visio qui propose la même chose. Est-ce que ça vous poserait problème si votre N+1 ou un de vos collaborateurs a, je ne sais pas moi, une tête de nounours au lieu d'avoir une espèce de truc qui lui ressemble un petit peu?
Alors, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, parce que j'ai notamment une de mes consultantes qui aime bien utiliser... en fait, on peut plugger la Snapchat caméra, notamment
aussi,
sur Zoom et Teams. Donc, je l'ai déjà vu avec différentes têtes un peu en décalage. Après, je trouve intéressant de voir que dans la vidéo de Meta, du Metaverse, Mark Zuckerberg, il n'a pas cherché à se faire un avatar particulier. En fait, il s'est juste représenté lui-même. Et donc, est-ce que ça veut dire aussi que, enfin, il est un peu tristement sans, je sais pas, sans créativité ou sans envie de quelque chose. Il s'est représenté plus jeune, peut-être un petit peu mieux galbé, je sais pas. Mais il aurait pu proposer un truc plus fou. Et ça aurait d'ailleurs peut-être ajouté un peu de sympathie à ce qu'il est, en se disant, tiens, tu rêves de quelque chose d'autre que toi.
Et t'es un peu moins reptilien aussi, quoi. Tu fais un peu moins peur. Non, chez Bondage, je serais pas choquant. Après, dans peut-être l'univers aussi et le domaine et le secteur s'y prêtent plus.
Oui.
Après, il y a la culture de l'entreprise aussi qui joue forcément.
Ouais, mais effectivement, le secteur s'y prête plus. Alors après, on n'est pas le seul secteur, mais je pense qu'effectivement, on a un secteur qui est assez inclusif, sur lequel on peut se permettre beaucoup plus de choses que dans d'autres secteurs qui sont historiquement un peu plus fermés, où les codes sont un petit peu plus marqués. Je pense qu'effectivement, dans le quotidien d'une société de jeux vidéo, ça serait pas choquant. Alors après, où est-ce qu'on met les limites? Est-ce qu'on peut arriver en nounours dans une réunion? Je pense que ça dépend du sujet de la réunion. Si c'est une réunion créative, pourquoi pas? Si c'est une réunion financière, je pense que ce serait un petit peu plus difficile à percevoir ou à comprendre. Mais oui, c'est quelque chose qui est envisageable dans notre univers. Après, c'est une question de contexte et d'acceptation de chacun.
Et j'ai une autre question qui me vient aussi, c'est, ben, on parle de transformation digitale, je pense que Mathieu, tu vas pouvoir bien nous en parler. Est-ce qu'on doit percevoir ça, le métaverse ou ces univers, etc., comme un élément d'une transformation digitale, comme certaines personnes sont outillées, sont équipées aussi de solutions de travail collaboratif pour pouvoir mieux travailler à distance, etc. Est-ce qu'il faut le voir vraiment comme un outil de transformation ou comme une couche supplémentaire pour un point qui est finalement pas si important pour le monde de l'entreprise, ou est-ce qu'on verra ça comme un élément un peu plus fédérateur?
Déjà, quand on parle de transformation numérique ou digitale, en fonction de l'école qu'on a envie d'avoir par rapport à ça, le sujet de la transformation, ça veut dire souvent on a pris du retard et on a besoin de se transformer. On a besoin d'accélérer en termes d'expérience client, en termes d'expérience collaborateur, en termes d'IT, de tous ces éléments. Et pour moi, la transformation en tant que telle, normalement, on n'a qu'un temps. On lance une transformation et à la fin, normalement, on est censé être transformé. Moi, dans mon cabinet, en fait, on parle plutôt d'accélération numérique. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on parle de ça depuis 3 ans et demi. Et depuis le Covid, tout le monde parle d'accélération, de la transformation numérique et tout ça. Et en fait, ce que j'explique souvent aux clients, c'est il y a le côté transformation. Donc, à un moment donné, on va devoir partir d'un point A pour aller vers un point B. Mais par contre, le numérique ne va jamais s'arrêter. Et c'est plutôt quelle est votre capacité à être tout le temps dans l'adaptation par rapport à ça. Par exemple, dans le conseil, on parle d'un monde VUCA qui est volatile, incertain, complexe, ambigu. Et l'arrivée d'un sujet comme les métavers, mais comme plein d'autres sujets numériques, sont des nouveaux blocs. Et c'est la capacité des entreprises à avoir une culture qui est adaptative par rapport à ça, la capacité des gens à comprendre comment est-ce que ces nouveaux numériques s'intègrent dans leur méthode de travail, plutôt que comme aujourd'hui, où à un moment donné, ils ont pris beaucoup de retard, et à un moment donné, ils disent oh, « faut qu'on appuie sur le champignon ». Non, s'ils sont dans une accélération constante et que chacun est aligné par rapport à leur culture et à comment est-ce qu'ils doivent aborder ces sujets, je pense qu'un sujet comme l'Etaverse a totalement sa place, il sera intégré, tout comme d'autres. Parce que là, on parle de ça en particulier. Il y a 4 ans, on parlait des chatbots, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, énormément de sujets où à un moment donné, les gens ne savent plus exactement vers quoi se tourner. Mais si on est dans une logique de test, d'expérimentation, et qu'au fur et à mesure, on commence à mettre des blocs et où l'organisation est capable d'absorber ce type de nouveautés, oui, ça a sa place.
On arrive malheureusement à la fin de ce podcast petit à petit.
Il faut bien.
Il faut bien, il faut bien. Et si je devais conclure en vous posant une ou deux questions, je vous demanderais d'abord si, au final, est-ce qu'il faut avoir peur de ce métavers, de ces métavers? Est-ce que c'est un danger? Et s'il ne faut pas en avoir peur, est-ce que vous seriez prêt personnellement à plonger dedans, à sauter, à aller dans ce métavers et à prendre le parti de l'utiliser?
Alors, en avoir peur, non, je pense pas qu'il faille avoir peur de la technologie. Après, et je pense qu'il faut rester pragmatique par rapport au métavers, par rapport à ce que ça représente et par rapport au buzzword que c'est aujourd'hui. Ça sera un outil digital de plus qui permettra d'avoir des expériences potentiellement plus abouties dans certains domaines. Voilà, à utiliser avec toutes les précautions d'usage en termes de confidentialité des données, en termes de réglementation aussi, parce que je pense que ça peut ouvrir des risques, comme ça pourra ouvrir beaucoup, beaucoup d'opportunités. Donc je pense pas qu'il faille en avoir peur. Après, je pense que sur toutes les technologies, il faut être vigilant dans les usages qu'on en fera.
Mathieu, faut-il en avoir peur de ce métavers ?
Alors, je pense que ça dépend de quel côté on se place. Moi, je me suis toujours défini comme un technophile humaniste. Donc, j'adore la technologie, c'est ma passion. Et après, je suis aussi très regardant sur l'impact que cette technologie peut avoir sur les humains. Et aussi, ça fait plus de 10 ans que je m'intéresse aux technologies réalité virtuelle, réalité augmentée et autres. Et j'ai souvent dit, le jour où, par exemple, on pourra avoir des lentilles de réalité augmentée, le jour où on pourra avoir des lunettes de réalité augmentée, je serai le premier à en porter, tout comme j'ai porté des Google Glass, tout comme j'ai testé des casques et autres. Après, c'est le même sujet aujourd'hui pour moi que les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux sans comprendre l'utilisation qui est faite de leurs données, qu'est-ce qui peut être récupéré, quelles informations, en fait, ils devraient protéger ou pas. Et après, il y a des gens qui sont plus sachants, qui savent exactement quand ils postent quelque chose ou quand ils font une interaction en ligne, quel est l'impact. Et je pense qu'il y a aussi un sujet un peu d'acculturation pour les personnes en leur disant univers virtuel, oui, très excitant, il y a plein de choses à faire, mais prenez aussi un peu plus conscience de tout ce que ça inclut et tout ce que ça imbrique. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont peur du fait qu'on leur dit « attention, ces géants du numérique utilisent vos données, font énormément de choses et tout ça ». C'est pas du tout nouveau, hein, et puis c'est pas les premiers à le faire. Et donc, s'il y avait une meilleure culture de la donnée, une culture numérique de la part des gens, ils seraient sûrement plus apaisés par rapport à ça. Et après, il y a un peu deux camps qui s'opposent sur ces technologies, type métaverse. Il y a des gens qui sont très technophiles, et surtout qui vont être très challengeants pour les entreprises comme Facebook, parce que quelqu'un comme moi qui va dire « votre truc n'est pas excitant, et merci, j'ai pas trop envie », et puis les gens qui vont être un peu stressés en disant « non, mais en fait, Facebook, on m'a dit que c'était diable et qu'ils allaient utiliser toutes mes données et faire des choses horribles », et qui eux aussi vont être, entre guillemets, dans le frein. Donc, juste pour répondre à la question « est-ce que moi, je m'intégrerai dedans avec plaisir ?» Mais j'ai aussi, par exemple, un enfant de 4 ans, je serai très regardant sur ce que lui va faire dans les prochaines années, comment est-ce qu'il va évoluer. Et si jamais à un moment donné il se connecte à un métavers, je serai avec lui pour lui tenir la main.
Et toi, Valentin, est-ce que tu es prêt à utiliser le métavers de façon aussi courante que les réseaux sociaux actuellement, peut-être ?
Bonne question, déjà. Mais j'ai pas encore la réponse. Mais à tester, oui, comme tu as dit tout à l'heure, Mathieu, est-ce qu'on va peut-être pas juste l'essayer, faire ah ouais, ok, c'était sympa. Mais non, pas tout de suite, on va attendre des mises à jour. Donc, prêt à le tester, à plonger dedans, je dirais que non, totalement. Après, voilà, tout dépend de la manière dont on conçoit un petit peu le métaverse et comment on va le vivre dans le meilleur des mondes et peut-être dans une dizaine d'années où effectivement on n'aura plus de smartphone. Je porte des lunettes toute la journée, donc ça ne me posera pas de problème d'avoir la possibilité de faire apparaître une fenêtre dans mon champ de vision et d'augmenter un petit peu tout ce que je croise autour de chez moi, et que effectivement en arrivant chez moi dans mon salon en posant mes clés, bah là où j'avais une télé, effectivement j'ai plus de télé, mais voilà, avec mes lunettes je peux faire apparaître un cadre. Depuis ce cadre là je peux lancer Netflix, je peux lancer plein d'éléments, je peux faire apparaître d'autres éléments aussi, je peux changer ma déco sur certains murs. Dans ce cadre là il y a un côté intéressant, un côté sexy, mais très futuriste et pas encore très réaliste. Donc dans la forme de ce que ça représente aujourd'hui, ça m'intéresse, je suis curieux. Dans la forme de ce que ça peut être demain et comment j'aimerais bien le voir, ça m'intéresse. Et pourquoi pas, avec une paire de lunettes, etc. Et après, côté danger, effectivement, il faut rester très vigilant sur à qui ça appartiendra, comment on s'y connectera, quelles données seront récoltées. Mais voilà, il faut peut-être garder espoir.
On suivra ça avec attention parce que, à mon avis, l'actualité de ces prochaines années va beaucoup tourner autour du métavers. Merci à tous les trois
pour avoir été là. Merci. Merci Anthony et Mathieu pour avoir répondu à notre invitation et avoir apporté un peu de votre expertise. On se retrouve bientôt sur siècledigital.fr.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.